Voilà, bah écoutez, on a un privilège de pouvoir venir ce matin et ouvrir la parole de Dieu. Donc je vous invite à l'ouvrir à Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Après la coupure de l'été, j'ai le plaisir ce matin de revenir à notre série séquentielle de l'évangile de Marc. Nous nous trouvons au chapitre 3 et les versets 13 à 19 que je vais lire est une section que j'ai intitulée que j'ai intitulé, je recommence, 12 hommes ordinaires. 12 hommes ordinaires, je pense que vous comprenez de qui ce texte parle. On va lire Marc 3, 13 à 19. Il monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Jésus avait 12 disciples. Voici ce que le texte nous apprend. Et j'aimerais en fait passer ces prochaines semaines à examiner les vies de ces 12 disciples pour essayer de comprendre qui étaient ces hommes, examiner leur vie, le portrait individuel de chacun, pour savoir qui vraiment ils étaient. Et ce que j'aime avec l'étude que nous entamons aujourd'hui, c'est de réaliser que les hommes que Jésus a choisis pour propager l'évangile dans le monde étaient des hommes comme vous et moi. Des hommes ordinaires. Ce n'étaient pas des super saints, mais des hommes super normaux. En 3 ans, Jésus a pris des hommes et les a transformés pour qu'ils soient utilisables et puissants dans leur ministère. Alors, il faut comprendre que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était venu sur terre afin de sauver les hommes. Puisqu'il allait mourir 33 ans plus tard, ça il le savait d'avance, bien sûr, il était nécessaire qu'il trouve des hommes qui pourraient continuer le travail que lui avait commencé. Et ce qui est remarquable, c'est que plus de 2000 ans plus tard, on nous dit plus d'un tiers de notre planète se place sous le chapiteau de la chrétienté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous nés de nouveau, mais on voit que ces hommes ont parfaitement accompli leur devoir. Ce qui est encore plus remarquable est de constater le genre d'homme que Jésus a choisi pour ce travail d'importance capitale. Il a choisi des hommes, certes, qui avaient des points forts, mais il a aussi choisi ces mêmes hommes qui avaient beaucoup de points faibles. N'est-ce pas étonnant que ces hommes aient parfaitement accompli leurs tâches malgré leurs nombreuses faiblesses et leur chute, je dirais même, vis-à-vis de leurs tâches? Et ce qui est encourageant ici, c'est de savoir que c'est précisément ce que Jésus peut faire avec chacun et chacune de nous. Il peut envahir notre cœur, il peut transformer notre vie, afin que peu à peu nous devenions des outils utiles entre ses mains. Si tu es disponible, si tu es enseignable, si tu es corrigible, alors le Seigneur peut faire de toi un Pierre, un Jacques, un Jean. Il peut vraiment t'utiliser. Alors, il faut savoir d'emblée que cette série est une série qui n'est pas nouvelle avec moi. Moi, je m'inspire fortement d'un livre qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. Un livre qui s'appelle 12 Ordinary Men. J'aime tellement le titre que je l'ai en fait carrément pris, tel quel. 12 Ordinary Men par John MacArthur, un très beau livre sur ces 12 disciples et apôtres. Donc voilà ma grande inspiration pour cette série. Alors ce matin, nous allons commencer avec quelques points préliminaires sur les 12 disciples, suivis du portrait du premier disciple Pierre. Donc on va faire l'apôtre Pierre ce matin. Juste quelques points préliminaires pour commencer. Premièrement, l'appel des disciples. Regardez le verset 13 et 14 de Marc 3. Jésus monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quelques généralités intéressantes ici. Notez que le texte nous apprend que Jésus a appelé ses 12 disciples. Le mot littéralement veut dire « appeler vers ». Jésus a appelé ses hommes vers lui. Mais notez que dans le verset 14, on apprend le but de cet appel. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et verset 15 plutôt, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. C'est très précis. Il a appelé ses hommes pour les former et ensuite pour les envoyer prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Dans le passage parallèle dans Matthieu 10, 1, ils sont appelés des disciples. Le mot veut simplement dire apprenti. Donc il appelle 12 apprentis. Et ensuite dans le verset 2, voici les noms des 12 apôtres. Il les appelle apôtres. Et en grec, le mot apôtre, apostolos, peut simplement dire être envoyé. Donc c'est la même idée. Il appelle des hommes pour qu'ils deviennent son apprenti, avec le but de les envoyer faire le travail auquel il les a appelés. Alors moi je me suis dit, mais si ces 12 hommes avaient besoin d'être formés pendant 3 ans, jour et nuit avec Jésus, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Pouvons-nous vraiment vivre notre vie chrétienne sans une formation intense par le Seigneur? Peut-être que l'Église de Dieu est-elle faible aujourd'hui pour manque de formation de qualité. C'est vrai que je pensais à tout ce qu'on offre dans notre Église, on essaye toujours, Bible en main, de pourvoir des ministères pour que nous soyons formés, que nous connaissions mieux qui est notre Seigneur et Sauveur, pour pouvoir mieux annoncer l'Évangile. On en reparlera tout à l'heure. Alors la formation, pour commencer avec eux, a duré 3 ans. C'était une immersion totale. Ils ont passé 3 ans, jour et nuit avec Jésus. Et ça, de nouveau, ça me montre que mais ça prend du temps, une formation. 3 ans, mais attention, 24 heures sur 24. Alors, globalement, il y avait 4 phases dans leur formation. Premièrement, moi je dirais leur conversion. Regardez dans Jean 1, 35 par exemple. Dans Jean 1, 35, c'est l'appel d'André, de Simon, de Philippe et de Nathanaël. Le lendemain, verset 35, Jean était encore avec eux, avec 2 de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Donc Jean-Baptiste, il a ses disciples, il voit Jésus passer, il dit « Regardez, c'est l'agneau de Dieu qui passe ». Verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean, qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, donc André rencontre Jésus, puis ensuite il amène son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Donc André, en voyant Jésus, est convaincu que Jésus est le Messie et il dit à son frère Simon, donc Pierre, « C'est le Messie ». Et il le conduisit, verset 42, vers Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas », ce qui signifie Pierre, roc. Et le lendemain, il appelle Philippe, verset 43, et Nathanaël, verset 45. Et regardez ce que Nathanaël dit au verset 49. Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Donc, Ils sont comme les saints de l'Ancien Testament. À ce moment-là, ils rencontrent Jésus. Ils sont sauvés. Verset 2, enfin, deuxième partie de leur formation, c'est leur consécration. Regardez Matthieu 4. Matthieu 4, et le verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, qui jetaient des filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Ça, c'est la phase de la consécration. On l'avait vu aussi dans Marc. Ces hommes, je pense, sont ici convertis, ayant confessé Christ en tant que Messie et Sauveur des hommes. Mais ici, Jésus les appelle à se consacrer pleinement à lui. Il leur demande, pour eux, puisqu'il les appelait à un ministère plein temps, de laisser leur filet, de laisser leur emploi séculier, et leur demande de le suivre plein temps. Et ils ne seraient plus jamais pêcheurs de poissons professionnels, mais des pêcheurs d'hommes. Troisième phase, leur initiation. Leur initiation. Marc 6, on le voit, après un temps considérable de formation avec Jésus, il leur donne quelque part un stage pratique. Ils sont envoyés deux par deux. Selon Marc 6 et le verset 7, il est dit ceci. Marc 6, 7, alors, il appela les 12. Donc, il les a déjà. Et commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et là, c'est intéressant, il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton. De n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans les ceintures, de chausser les sandales et de ne pas revêtir de tunique. C'est un stage. Il leur dit, partez, faites votre ministère et revenez. Ne vous encombrez pas avec des choses, c'est un stage. Donc, il y a leur conversion, leur consécration, leur initiation. Bon, ça me rappelle un petit peu, lorsque Meg et moi, on a été appelés au ministère, la première année, lorsqu'on était envoyés par notre église et notre mission, ben, on avait deux valises chacun. C'est tout. Il nous dit, allez-y pendant un an et ensuite vous reviendrez. Ensuite, on verra comment ça s'est passé. Et vraiment, si l'appel est certain et clair, ensuite vous partirez longtemps. Alors, c'est ce qu'on a fait, on est venu. On a atterri à Lyon, à L'Arbrel, en fait, pendant un an. Enfin, 6 mois à L'Arbrel, ensuite 6 mois à Paris. Et là, ça a vraiment confirmé le fait que le Seigneur nous appelait plein temps. On est retourné aux États-Unis. On a eu notre soutien en 4 mois, en fait. C'était assez incroyable de voir. Et ensuite, on est revenu dans notre quatrième phase, je peux le dire ici, c'est la quatrième phase de leur formation, leur mission. Et là, vous connaissez ce verset dans Matthieu 28. Cette phase est la dernière phase. Jésus est mort, il est ressuscité, il apparaît aux disciples, moins Judas, qui est mort et pendu. Il leur donne leur mission éternelle, qui est dans Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parle ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus leur donne un travail maintenant pour, pas un petit travail local, mais d'aller atteindre le monde entier avec l'Évangile. Je résume. Ce que nous apprenons tout simplement très rapidement, j'ai fait un survol rapide, c'est que ces hommes ont été formés. La formation est capitale à la réussite. Et pour être bien formé, ça prend du temps. Il ne faut pas être trop pressé, et comme nous le verrons tout de suite, la formation comprend de l'encouragement, il y a des bons jours dans la formation, mais il y a des mauvais jours dans la formation. Il y a des jours où on est encouragé par notre Sauveur et notre Maître, mais aussi des jours où on est vraiment corrigé, et ça fait mal d'être corrigé par notre maître. Ces hommes avaient des points forts, mais ils avaient aussi des points faibles, et souvent ils ont dû être, et parfois sèchement, repris par notre Seigneur. Alors juste avant de rentrer sur le portrait de Pierre, deuxième point, la liste des disciples. Quelques points sur cette liste qu'on voit, toujours ces mêmes noms qui apparaissent. Comme j'ai déjà dit, ce qui frappe vraiment, c'est que ces hommes sont des hommes très ordinaires. C'est intéressant, il y avait peut-être qu'un qui était riche avant qu'il soit appelé. C'était Matthieu. Et lui, il est devenu riche par extorsion. Vous rappelez, c'était un précepteur et il volait les Juifs pour les Romains. Il n'était pas très populaire. Aucun d'eux n'avait fait de grandes études, apparemment. Aucun d'eux n'était apparemment issu d'une souche sociale élevée. Non, c'était des hommes ordinaires. Il y a 4 listes d'apôtres dans le Nouveau Testament. Matthieu 10, Marc 3, Luc 6 et Acte 1. C'est intéressant que Pierre est toujours mentionné en premier. Et le dernier, c'est qui ? Judas, exactement. Pierre était le leader du groupe de 12, Judas le moindre. Chaque liste contient 3 groupes contenant les mêmes noms. Premier groupe, Pierre, André, Jacques, Jean. Deuxième groupe, Philippe, Barthélemy ou Nathanaël, Thomas et Matthieu. Troisième groupe, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite. Et pour terminer, Judas. Intéressant que chaque nom ou groupe, je dirais, contient une description décroissante de chacun de ses membres. On connaît beaucoup plus sur le premier groupe que sur le deuxième groupe, que sur le troisième groupe, sauf Judas. On connaît beaucoup sur lui. Aussi, on voit que les groupes sont en ordre décroissant d'intimité envers Jésus. Le premier groupe, ils sont très proches de Jésus, donc vraiment proches cœur à cœur. Le dernier groupe, moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas, bien sûr. Mais c'est simplement la relation un petit peu moins intime entre le dernier groupe et le premier groupe. Chaque groupe de 3 commence par le même nom. Le premier groupe commence avec Pierre, le deuxième groupe commence avec Philippe, et le troisième groupe commence avec Jacques. On a l'impression qu'il y a une hiérarchie d'autorité. Et c'est normal. Pour qu'il y ait de l'ordre, il faut une hiérarchie. Chaque groupe avait son leader. Mais Pierre était le leader du groupe entier. Donc il y avait un grand leader et ensuite des leaders moindres ou plus petits pour les plus petits groupes. C'est intéressant que ces hommes avaient aussi des tempéraments très différents. Pierre, oh, on aime bien Pierre, hein, oh là là, actif, impulsif, gaffeur, on y arrive. Jean, affectueux, penseur, un cœur rempli d'amour, proche de Jésus. Imaginez ces deux devoir travailler ensemble. Waouh, ça lui chauffait de temps en temps. Nathanaël, toujours prêt à croire sans douter, on le verra. Thomas, toujours prêt à douter sans voir. Matthieu, il avait travaillé pour les Romains et volé les Juifs. Simon le Zélote ou le Cananite était un révolutionnaire radical. Lui avait eu l'objectif de renverser les Romains. Politiquement, ils étaient sur le spectre opposé. Un était pour les Romains, un était contre les Romains. Dans leur vie précédente, bien sûr. Je trouve intéressant. On peut qu'imaginer les tensions qui parfois ont surgi entre ces hommes. Bienvenue au monde réel, mes amis. Ainsi, en voyant la matière première de ces 12 que Jésus a choisi, nous voyons que c'est un groupe très contrasté avec des différences de tempérament, de vision, de politique, de peut-être clarté spirituelle, d'arrière-plan culturel et même de gestion émotionnelle. Or, le Seigneur les a tous utilisés. Il les a choisis tels qu'ils étaient, il les a pris dans leur matière d'origine. Et il les a transformés et en 3 ans les a utilisés. Bien sûr, il y a eu un qui malheureusement était le traître. Et celui-là, on regardera son portrait en dernier. Alors, vous savez ce que je trouve ici super, et peut-être c'est comme ça que nous on devrait envisager l'évangélisation. Quand vous parlez avec quelqu'un, mes amis, regardez au potentiel de cette personne. Dites-vous, waouh, cette personne avec tous ses défauts, tous ses problèmes, tout son péché. Est-ce qu'elle va vraiment venir à Christ ou pas? Vous dites, mais si elle vient à Christ, waouh, le potentiel! Moi, je crois que Jésus regarde au potentiel en nous, parce qu'il sait très bien sûr, avec le pouvoir de son Saint-Esprit, qu'il peut vraiment nous transformer. le potentiel. Alors moi, je te pose la question, tu es chrétien? Est-ce que ton potentiel est au maximum? Est-ce que tu es en train de laisser Christ te transformer avec tes points forts et tes points faibles pour qu'il puisse utiliser toi et tout ton potentiel, ou est-ce que tu le freines? Ça, c'est la question. Et j'espère qu'en regardant et en examinant chacun de ses disciples, en voyant, vous allez vous retrouver dans un ou l'autre, dans plusieurs, vous dire, ah ouais, ça c'est moi. Trop bien, regarde ce qu'il a fait avec tel et tel apôtre. Ben, peut-être qu'il peut faire ça avec moi. C'est pas un peut-être, il peut. Il peut absolument et il veut. Alors, regardons le premier apôtre, Pierre, le leader passionné. Alors, je pense que vous êtes comme moi, vous aimez Pierre, tout le monde aime Pierre. Tout le monde aime Pierre, j'ai l'impression. C'est intéressant que les évangiles sont littéralement remplis de son nom. En fait, son nom est mentionné plus que tout autre nom, à part celui de Jésus. C'est intéressant. Jésus puis Pierre. Personne ne parle autant que lui. Fabien, super, hein. Ça fait plaisir de l'entendre, ça. Moi aussi, oh là 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 là. C'est vraiment super. Vous savez, des fois, nous qui parlons beaucoup, on a besoin de se rappeler que Pierre aussi, c'était un parleur. D'accord? Ouf, ça va mieux?
Ouais.
Super, d'accord. Qui parle beaucoup ici? Vous voulez lever la main? Non, non, d'accord. Ouais, d'accord. Bah, je vois les mains. Super, vous êtes très honnête. D'accord? Ok. Ah là là. Donc, personne ne parle autant que lui. Et personne n'est adressé la parole par Jésus autant que lui. Aucun disciple n'est repris par le Seigneur autant que Pierre. Et personne ne reprend le Seigneur à part Pierre. Pierre a repris Jésus. Alors là, il faut le faire, on va le voir. Aucun disciple n'a affirmé et confessé la divinité et la seigneurie de Jésus autant que Pierre. Et aucun disciple n'a nié Jésus avec tant d'impudence que Pierre. On met Judas de côté puisqu'il était irrégénéré. Personne n'est autant honoré et loué que Pierre. Mais aucun autre disciple que Pierre n'est appelé Satan. Le Seigneur a dit des choses plus dures à Pierre qu'à aucun autre, mais aucun autre a été utilisé plus que Pierre. Bref, Pierre est un homme de contraste, au tempérament vif, qui avait sans cesse besoin d'être corrigé, un homme d'action, que rien n'allait arrêter une fois sa formation terminée pour l'œuvre du Seigneur. C'était un homme que Jésus a totalement transformé sans pour autant changer sa personnalité. Ça, c'est intéressant, hein. Il n'a pas changé sa personnalité. Il a transformé son péché, pas sa personnalité. Pierre, c'est Pierre. Vous êtes qui vous êtes. Dieu veut nous transformer spirituellement. Pierre avait donc des points forts et des points faibles. Regardons le portrait de ce leader, d'accord? Parce que je pense que c'était vraiment un leader, c'était le leader du groupe. Alors voyons quels sont certains des traits qui étaient en lui, qui ont permis qu'il soit un leader. Alors que savons-nous de lui? Jean 44 nous dit qu'il était de la ville de Bethsaïda. Son père s'appelait Jonas, Matthieu 16, 17. Et son métier, il était pêcheur. Bon, bien sûr, il était pêcheur spirituellement, donc il était rempli de péché, ça on est d'accord. Mais en fait, il faisait la pêche, d'accord? C'était son métier. Donc il avait un frère, bien sûr, André, qui travaillait avec lui. Et lorsque Pierre rencontre Jésus, il habitait à Capernaüm. C'est là où Jésus a basé son ministère en Galilée. Pierre était marié. Peut-être, je vais le noter parce qu'il y a quand même un arrière-plan parfois catholique et on a de la peine à comprendre ça. Dans 1 Corinthiens 9, 5, il est dit, Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas. Céphas est un nom pour Pierre. Donc, Paul affirme que Pierre était bel et bien marié. Il était propriétaire d'une maison, là où Jésus a fait des miracles, à Capernaüm, on l'a déjà vu dans Marc 2. Il était nommé Simon, c'est Jésus qui lui a donné le nom Pierre dans Jean 1, 42, comme symbole de son potentiel futur, un roc solide. Solide comme un rocher. Alors, quels étaient les points forts de l'apôtre Pierre? D'accord? Bien sûr, avec un survol, on ne peut pas voir tout en détail, mais je pense que vous allez comprendre. Alors, premièrement, ses points forts, il était curieux. Alors, curieux dans le sens qu'il voulait comprendre, il était avide de comprendre les choses. Vous noterez qu'un leader, un bon leader, pose beaucoup de questions. Car ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre le problème pour ensuite trouver des solutions. Pour comprendre le problème, il faut poser des questions. Donc, il est curieux dans ce sens-là. Pierre est toujours en train de poser des questions à Jésus. Ne regardez pas ces versets, je vous les donne rapidement, d'accord? Dans Matthieu 15, 15, il demande à Jésus d'expliquer la parabole du cœur humain. Dans Matthieu 12, 41, il dit « Seigneur, est-ce à nous ou à tous ?» cette parabole. Dans Matthieu 18, 21, c'est lui qui demande combien de fois nous devons pardonner. Vous vous rappelez après la parabole du pardon? Combien de fois devons-nous pardonner? Matthieu 19, 27, c'est lui qui demande quelle serait la récompense pour avoir tout quitté. Dans Marc 11, 21, c'est lui qui demande la signification du figuier desséché, ce miracle. Dans Marc 13, 3, c'est lui qui demande la signification de ce que Jésus disait sur la fin des temps. Et dans Jean 21, 20 à 22, c'est lui qui demande la clarification sur le Christ ressuscité. Il veut comprendre, Pierre. Il veut savoir, il pose des questions. Deuxième chose. Pierre était initiateur. Il initiait des trucs. Ça, c'est un autre point fort de Pierre. Non seulement posait-il des questions à Jésus, mais c'était aussi lui le premier à répondre. À répondre aux questions posées par Jésus. En fait, Pierre était toujours le premier à parler. Dans Luc 8, 45, vous vous rappelez, il y a toute une foule autour de Jésus. Il y a une femme qui touche Jésus. Elle avait une perte de sang. Et Jésus, il a dit, sentait qu'une force était sortie de lui et l'a guéri. Une monstre foule. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Ben, c'est Pierre qui répond. En Luc 8, 45, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Qui avait dépensé tout son bien pour ses médecins, sans qu'aucun eût pu les guérir, il s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et tu presses et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais il attendait que peut-être cette femme réponde. Dans Matthieu 16, verset 14. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de Dieu ? Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Devinez qui répond le premier. Simon-Pierre répondit, chapeau pour la réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bonne réponse. Deux chapitres plus tôt, dans Matthieu 14, verset 27, vous vous rappelez, ils sont sur le bateau, sur la mer de Galilée, il y a un orage, il y a une tempête. La barque, verset 24, était au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire, donc un gros orage, ils ont tous peur. Verset 27, Jésus leur dit, Jésus arrive, je continue verset 25, la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc Jésus marche sur l'eau, ils sont dans un bateau. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils n'avaient jamais vu quelque chose pareil. Je ne sais pas si j'avais été dans ce bateau. Je pense que j'aurais été un petit peu perplexe aussi. Alors Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Qui est le premier à parler, vous croyez ? Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » On y reviendra dans 2 secondes. Voilà, tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est que Pierre prenait l'initiative. Pierre était ainsi. Alors bien sûr, le problème avec les gens qui prennent des initiatives, c'est qu'eux vont échouer plus souvent que les autres. Ben, si tu prends jamais d'initiative et t'essayes jamais rien, ben, tu vas jamais échouer. Mais si tu prends des initiatives et tu oses, ben, tu te mets dans une situation où tu vas peut-être devoir échouer. Et ça, c'est le problème avec les leaders. Il faut leur donner un tout petit peu de grâce des fois, parce que c'est vrai qu'ils vont essayer des trucs et ça va peut-être pas marcher. C'est pas la fin du monde. Alors moi, je me suis toujours dit, mieux vaut essayer et échouer que ne jamais essayer et ne jamais échouer. Il faut essayer. Donc, il était initiateur. Troisième point fort, il était zélé. On pourrait même dire qu'il était fonceur. Pierre était toujours au centre de l'action. Retournons à Matthieu 14. Donc Jésus marche sur les eaux, il y a un orage, ils sont dans le bateau. Quand les disciples le virent marcher, verset 26, sur la mer, ils furent troublés et dirent « Mais c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ça, c'est un initiateur, un fonceur, un leader. « Seigneur, si c'est vraiment toi, prouve-le, fais encore un miracle, moi je veux marcher avec toi sur l'eau. » Là, il faut le faire. Et il dit, « Viens !» Qu'est-ce qu'il a pensé, Pierre, à ce moment-là ? Quoi ? Non, viens, Pierre, viens ! Ah, ça change la donnée, hein ? Alors, Pierre, il fait quoi ? C'est un initiateur, c'est un fonceur. Il dit, « Ben, j'y vais !» Alors, bien sûr, il connaissait. Si c'est vraiment Jésus, je ne vais pas couler. C'est Jésus. Il est sur l'eau, je le connais, Jésus. Il vient de le confesser, il va le confesser dans quelques minutes. Mais il avait déjà confessé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y aller. C'est ce qu'il fait, verset 29. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est une petite chose qu'on oublie. Pierre, c'est le seul disciple qui a jamais marché sur l'eau avec Jésus. Je sais pas, ça doit être quand même assez dingue. Tu mets le pied. Comment tu fais? Tu fais comme ça et tu mets le pied. Moi, je pense que j'aurais quand même tâté l'eau, pas vous. J'aurais tâté l'eau et tout d'un coup, là, tu vois les vagues et tout d'un coup, tac, chaque fois que tu tâtes l'eau, c'est dur. C'est quand même étrange. Et donc, schlac. Enfin, je sais pas s'il a fait comme ça, d'accord, avec ce bruit. Mais il a commencé à marcher sur l'eau, c'est ce que le verset dit. Dommage que le verset 30 est là. Quel est le premier mot du verset 30 ? Mais. Il a marché sur l'eau. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait le regard sur Jésus. Mais tout d'un coup, il a commencé à regarder aux circonstances autour de lui. Il a dit, non, mais t'as voir, les hommes ne marchent pas sur l'eau. Ce que je suis en train de faire, ne devrait pas en train d'arriver. Il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Il a commencé à regarder au vent et oh, tac, il a coulé. C'est ce qu'il a dit au verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, alors c'est intéressant, il commençait à s'enfoncer. C'est comme, vous savez, quand nous on plonge, enfin moi quand je vais dans l'eau, d'habitude c'est direct, jusqu'en bas, d'accord ? Mais lui c'était lent. Il était sur l'eau dure et tout d'un coup, regardez, il commençait à s'enfoncer. C'est comme l'eau, lentement, ça commençait à monter. Et c'était une sorte de panique lente. Et là il s'écria, Seigneur sauve-moi ! Donc son regard passe du vent et revient à Jésus, c'est ce qu'il faut faire. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Regardez, et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Waouh! Voyez, il était fonceur. Il était zélé fonceur. Regardez Matthieu 26. Matthieu 26, verset 69. On accuse souvent Pierre d'avoir renié Jésus trois fois, ce qui est vrai. Pierre a renié Jésus trois fois. Verset 69, cependant, Pierre était assis, donc Jésus est arrêté. Il est dans la cour en train de se faire juger par le Sanhédrin. Et Pierre étant assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. Donc il trouve un moyen pour se faufiler avec les deux gens. Il est dans la cour et quelqu'un reconnaît Pierre. Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Verset 70. Mais il le nia devant tous disant, je ne sais ce que tu veux dire. Il ment point à la ligne. C'est un menteur, il ment clairement, il dit « Non, je ne le connaissais pas, c'est faux !» Il a menti. Et pas qu'une fois. Verset 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante vit et lui dit ce qui se trouvait là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth !» Il le nia de nouveau. Deuxième mensonge net et clair. Peu après, verset 73, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu as aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Et je reconnais ton accent. T'es de Zurich. D'accord? Ouais, c'est ça. Je reconnais ton accent. T'es galiléen. Tu fais partie de cette troupe de galiléens. T'es un des disciples de Jésus. Alors ils se mirent à faire des imprécations et à jurer. Non, ça c'est Pierre, mes amis. L'apôtre Pierre, oui. Il jure, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, le coq chanta. Vous vous rappelez, Jésus avait prédit que le coq chanterait. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qu'il avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. On connaît tous cette histoire, n'est-ce pas? Mais tenez-vous bien. C'est vrai, Pierre a renié Jésus trois fois. Mais, où étaient les autres disciples? Qui était là? Qui voulait être proche de Jésus? Qui essayait peut-être de concocter un plan pour le libérer? Pierre, son ami Jean aussi qui y était. Les autres, disparus les gars. Voilà un leader. Voilà un fonceur. Voilà un homme zélé. Il n'a pas eu peur d'y aller au prix de sa vie. Oui, il a menti. Oui, il a renié Jésus. Mais est-ce que les autres ne l'ont pas renié en n'y étant pas? C'est ça le problème d'être un fonceur. On peut se casser la figure plus facilement. Mais Pierre était un homme d'action, un fonceur, zélé, toujours au centre de l'action. Quatrièmement, on peut dire qu'il était convaincu. Une chose certaine avec Pierre, le leader, même qu'il a gaffé beaucoup, il était convaincu de qui était Jésus-Christ. Regardez Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je ? » Au dire des hommes, « Moi, le Fils de l'homme. » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il était convaincu. Regardez 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Waouh ! Pierre était convaincu. Convaincu. C'est le premier qui a couru à la tombe lorsque les femmes ont annoncé qu'il était ressuscité. Il était convaincu. Bien sûr, il y avait un doute avant. Mais c'était le premier à les voir. Il était convaincu que la parole de Jésus était vraie. Il a dû voir, il a vu. Donc voilà les points forts de Pierre. Curieux, initiateur, zélé, convaincu. Est-ce qu'il y avait des points faibles? Malheureusement, oui. Regardez, premièrement, un manque de sagesse spirituelle. On retourne à Matthieu 16. Regardez, c'est très intéressant. Vraiment intéressant. Pierre vient de faire cette incroyable confession qu'on vient de voir dans Matthieu 16 et le verset 16. Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ensuite, Jésus, on vient de lire, le bénit. Mais là, regardez verset 21. Juste après cette confession, juste après que le Seigneur le bénit, lui dit, « Je vais te donner les clés du ciel, etc. » Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'initiateur. Pierre l'ayant pris à part. Jésus, écoute, il faudrait qu'on discute. Il faut que je parle avec toi, d'accord ? Se mit à le reprendre. Attends, c'est Pierre qui reprend Jésus ici, d'accord ? Et il dit ceci, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus, t'as rien compris, d'accord ? Tu dis que tu vas aller mourir. S'il te plaît, écoute-moi, c'est impossible. Bien sûr que non, tu vas pas mourir. Tout ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, Jésus. Cela ne t'arrivera pas. Il est formel, il est catégorique. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Waouh ! Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est un contraste extraordinaire. D'un côté, il fait des déclarations étonnantes sur Jésus. Quelques minutes plus tard, il dévoile un manque de sagesse et de compréhension spirituelle étonnant. C'est souvent le cas pour les leaders, en fait. Dans Matthieu 26, c'est intéressant. Ils sont dans le jardin de Gethsémané. Verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et les angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, un homme faible aussi, incapable de prier à cette heure cruciale, plein de bonnes intentions. Donc il a des points faibles. Premièrement, un manque de sagesse spirituelle. Deuxièmement, un manque d'humilité. D'humilité. Regardez Matthieu 26 encore, à partir du verset 30. Un manque d'humilité. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Ah là là, les leaders, regardez Pierre. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus, tu peux compter sur moi. Moi, je vais tenir le coup. » Ça, c'est un manque d'humilité. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, Pierre, mais vraiment Pierre, t'as rien compris. Tout à l'heure, tu vas me renier. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Est-ce que Pierre a compris verset 35? Pierre lui répondit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Bien sûr, tous les disciples font pareil parce qu'ils suivent le leader. Ça, c'est le problème aussi. Hein. Et tous les disciples disent la même chose. Ouais, ouais, nous aussi, Jésus, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Ouais, ouais, comme Pierre, comme Pierre. Quand le coq a chanté, il a compris Pierre. Waouh! Il faut que j'apprenne l'humilité. Il l'a appris, l'humilité. Dans 1 Pierre 5, 6. Pierre écrit dans sa première épître, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Moi, je crois que Pierre a été tellement repris par le Seigneur qu'il a dit, « Waouh ! Soyons humbles. » Alors, ça ne change pas la personnalité. Il était fonceur, mais humble. Humble. Donc il avait un manque de sagesse spirituelle, un manque d'humilité, troisièmement un manque d'amour. Un manque d'amour, de nouveau c'est souvent le cas avec des gens d'action, ils sont tellement pris par le travail, par la tâche, par l'action, par la découverte, par le zèle, qu'ils oublient parfois d'aimer. Ça peut être un problème. Dans Jean 21 et 15, après la résurrection, regardez, il y a un dialogue qui se produit entre Jésus ressuscité et Pierre au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci ?»« Que ne m'aimes ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il est en train de tester l'amour du Seigneur, de Pierre et de voir comment va se dessiner son ministère plus tard. Il veut vraiment voir s'il aime Jésus et il aime les brebis pour les paître. Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est intéressant, hein? Il donne une tâche très spécifique à Pierre. « Paie mes brebis. » Sois un pasteur. Ça, je crois qu'il l'a appris. C'est dans 1 Pierre 5, voici, verset 1, 1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, c'est Pierre qui écrit, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifeste, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'est Pierre qui dit au lecteur, au pasteur lecteur, vous paissez le troupeau. Il avait appris le salson. Je dois aimer le troupeau et le paître. Donc il avait un manque d'humilité, Pierre. Et un manque d'amour, comme on vient de le voir. Et quatrièmement, Il avait un manque de maîtrise de lui-même. Les fonceurs parfois foncent trop vite. Vous vous rappelez certainement cette histoire dans Jean 18, et verset 10, ils sont dans le jardin de Gethsémané. Judas vient de venir avec cette garde pour arrêter Jésus. Et Jean 18, 10, Simon Pierre, qui avait une épée, était armé, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. De nouveau, Jésus veut protéger, Pierre veut protéger Jésus. Il sort son épée. Je ne pense pas qu'il visait l'oreille personnellement. Moi, je pense qu'il visait la tête. Je ne sais pas comment il a fait, Malchus, mais il a emporté l'oreille. Impulsif, Pierre. L'oreille droite, je trouve ce détail intéressant. Et vous connaissez l'histoire, Jésus ensuite guérit cet homme et de miracle. Ouais, vraiment un homme impulsif. Luc 22, 50. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille droite, mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez arrêter. » Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. C'est intéressant, il a eu tort. Je pense qu'il voulait vraiment tuer. Alors bien sûr, on peut dire « Ouais, mais il voulait protéger Jésus. » C'est intéressant qu'il ait le courage. C'est lui qui était là avec son épée. C'était lui qui allait protéger Jésus et les autres disciples. Alors je pense qu'il a pris sa leçon aussi dans Actes 4, 19. Il a réalisé qu'il ne fallait pas se défendre en tant que chrétien avec une épée. D'accord ? Lorsqu'il a été arrêté dans Actes 4, verset 18, ils ont appelé, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Il n'a plus jamais retiré son épée, mais il s'est fait emprisonner quelquefois pour avoir proclamé la vérité de Dieu. Rien n'allait l'arrêter. Donc un homme avec des points forts et un homme avec des points faibles. Je trouve ça vraiment encourageant personnellement. Pierre était le premier des apôtres, le leader du groupe. Il n'était pas le plus facile du groupe. Très extraverti, un fonceur, plein de questions, plein de réponses, toujours le premier, initiateur, toujours actif, convaincu du droit chemin, mais avec ses faiblesses. Manque de sagesse spirituelle, manque d'humilité, manque d'amour, manque de maîtrise de soi. Si vous venez au cours sur le livre des Actes, vous allez découvrir l'apôtre Pierre, transformé par le Seigneur. Après la résurrection et l'ascension, c'est Pierre qui a présidé la réunion pour remplacer Judas dans Acte 11, dans Acte 1. C'est Pierre qui prêche avec vigueur et courage à la foule, réunie le dimanche de Pentecôte, où 3000 personnes se convertissent d'un coup dans Acte 2. C'est Pierre qui, après la Pentecôte, guérit miraculeusement l'homme boiteux depuis 40 ans à la porte du temple, lui et Jean. C'est Pierre qui prêcha un autre sermon qui mena à son arrestation et celle de Jean dans Acte 4, un homme courageux. C'est Pierre qui, le lendemain, parlait avec courage et conviction à la cour devant laquelle il comparaissait dans Acte 4. C'est Pierre qui était le porte-parole dans l'épisode de la confrontation d'Ananias et Saphira, dans Acte 5. C'est Pierre avec Jean qui allèrent en Samarie après le travail d'évangélisation de Philippe, dans Acte 8. C'est Pierre qui reprend sévèrement Simon pour son hérésie. C'est Pierre qui, un peu plus tard, guérit miraculeusement Aîné, qui fut paralysé depuis 8 ans, couché sur un lit, dans Acte 9. Et c'est aussi lui qui a ressuscité Dorcas des morts, Ce que je trouve absolument génial avec Pierre, c'est que cet homme-là, que Dieu a choisi pour nous donner 1 et 2 Pierre, et qui était derrière l'évangile de Marc. Dieu peut prendre un homme comme Pierre, le transformer et l'utiliser pour écrire des livres inspirés dans la parole de Dieu. Mais avec le privilège, parfois il y a un prix à payer. Et dans Jean 21, versets 18 et 19, Jésus avait prédit quelque chose par rapport à Pierre. Écoutez, en vérité, je te le dis, Jean 21, 18, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Il y a un peintre qui s'appelle Caravaggio. Il a peint cette scène et j'aimerais vous montrer ce tableau. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez-le bien. La tradition nous dit que Pierre a été crucifié. Bien sûr, c'est ce que Jésus a prédit. Jésus a prédit que, hein, c'est ce qu'on vient de lire, qu'il étendra ses mains, qu'un autre le ceindrait, qu'il le mènerait là où il ne voudra pas. Probablement une référence à sa mort. Mais ce tableau montre quelque chose d'intéressant. Comment est-ce qu'il est positionné, Pierre, ici? Il est à l'envers. La tradition nous dit que Pierre ne se sentait indigne d'être crucifié comme son sauveur et a demandé d'être crucifié à l'envers. Et Caravaggio a saisi ce moment comme il l'a imaginé, bien sûr, avec ce regard dans les yeux de Pierre de panique par rapport à ce qui lui arrivait. Regardez bien ce tableau. Parce que je crois qu'il veut tout dire. Jésus a dit, viens. Viens, je t'offre par ma grâce le salut. Je suis mort et ressuscité pour toi. Je te l'offre gratuitement. C'est une grâce de ma part. Demande à Christ de te pardonner ton péché. Il le fera instantanément. Il te pardonnera. Il te lavera. Il te donnera la vie éternelle. Et il va commencer une transformation dans ta vie, comme il l'a fait pour l'apôtre Pierre et les autres disciples que nous verrons dans les semaines à venir. Mais n'oubliez pas ce que Jésus a dit. De grandes foules faisaient route avec Jésus, Luc 14, 25. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. » Et ensuite il dit, ah j'ai des frissons, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Moi je pense que le défi il est clair. Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Voilà la question. Est-ce que Christ a transformé ta vie? Est-ce qu'il est en train de te sanctifier peu à peu? Est-ce que tu as vraiment pris la croix? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie s'il le fallait? À être crucifié à l'envers s'il le fallait? Tu dis, ouais mais John, regarde toutes les faiblesses dans ma vie. Bienvenue à l'apôtre Pierre. Dieu veut te prendre et te transformer comme il a fait pour Pierre. Tu as besoin d'être formé. Vraiment, tu as besoin d'être formé. Moi je prie et j'espère que tous les ministères qui sont proposés dans cette église, que tu vas en choisir 1 ou 2 et te dire, moi j'ai besoin de grandir dans ma foi. Une réunion par semaine, le dimanche matin, c'est pas assez. Avec Jésus, c'était 24 heures sur 24. Seigneur, merci de tout cœur pour ce portrait que nous avons vite vu aujourd'hui, Seigneur. Et nous nous réjouissons de pouvoir examiner ces autres vies des apôtres, Seigneur. Et on se sent tellement comme Pierre, tellement faible. Oui, il y a des points forts, mais on voit tellement de points faibles dans nos vies. Seigneur, merci pour ta patience à notre égard. Seigneur, aide-nous à être comme Christ, Seigneur, à prendre notre croix. à dire oui. Oui, Seigneur, forme-moi, façonne-moi à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. On peut... Voilà, vraiment, que le Seigneur nous permette de dire oui à Christ. Seigneur, prends tout, Seigneur. Viens, lui.
I don't.